Bonsoir. J'espère que vous avez passé une agréable journée. C'est avec plaisir que je vous accueille aujourd'hui dans ce 11e épisode dans lequel nous allons parler pendant plusieurs semaines d'Athéna. Déesse de la guerre, de la sagesse, de la stratégie militaire, des artisans, des artistes et des maîtres d'école. Les Latins l'appellent Pallas. Une naissance particulière. Athéna est la fille de Zeus et de Métis, une océanide, déesse de la raison, de la prudence et de la sagesse. Dans la mythologie grecque, les océanides ou océanines sont des nymphes aquatiques, mais non marines, à l'inverse des Néréides. Métis est la première épouse de Zeus. C'est elle qui a donné à son père, Cronos, la boisson qui lui a permis de vomir les frères et les sœurs de Zeus. Elle est donc, par son père, une titanide. Alors qu'elle va accoucher d'Athéna, Ouranos et Gaïa, ses grands-parents, prédisent à Zeus qu'un fils de Métis est appelé à le supplanter. En fait, ils utilisent la même technique qu'avec leur fils Cronos. À croire que cette malédiction familiale est inscrite dans les gènes et sûrement dans la notion même de pouvoir. Mais il est plus humain. Il ne veut en aucun cas faire souffrir Métis. Pas de coup de pied dans le ventre, ni d'emmaillotage préliminaire. Il ouvre la bouche et avale tout cru sa femme. À la limite, pas de témoin gênant à faire taire, et l'affaire est classée. Vous n'avez pas vu ma femme, elle était avec moi et gloups, j'ai salivé et elle a disparu. Du fond des entrailles du dieu, celle-ci l'aidera par la suite à discerner le bien et le mal, encore bien bonne, amour post-mortem. Quelques mois plus tard, il ressent de terribles maux de tête sur les bords du lac Triton. Sa femme va bientôt accoucher, mais vu où elle se trouve, elle manque d'air pour respirer. Zeus commence à avoir de violents maux de tête et aucune aspirine ne fait de l'effet. Il demande alors à Héphaïstos, le dieu forgeron, de lui ouvrir le crâne d'un coup de hache pour le libérer de ce mal. C'est ainsi qu'Athéna jaillit, brandissant sa lance et son bouclier, de la tête même de Zeus, en poussant un puissant cri de guerre. Très difficile d'imaginer le dieu forgeron trépanant son frère et Athéna surgissant d'une césarienne cérébrale tout armée du crâne de son père en poussant un cri. Sachant du reste que d'autres écrits situent la naissance d'Héphaïstos bien après, ce que nous expliquerons plus tard. Mais peu importe, ça fait partie des scénarios les plus populaires. De toute façon, cet accouchement cérébral est plus que hautement symbolique de l'œuvre que va réaliser Athéna. Très vite, cette jeune déesse rejoint les dieux de l'Olympe où elle prend une place importante. Elle est la favorite de Zeus. Celle à qui il ne peut rien refuser, sous peine d'avoir des maux de tête. Tout comme Zeus, elle tient l'égide, une arme merveilleuse, offensive autant que défensive, symbole de la puissance souveraine. Elle peut aussi lancer la foudre et le tonnerre, privilège que chercheront à voler des héros. Déesse de la sagesse et de l'intelligence, elle est représentée par la chouette et l'olivier. Elle symbolise la civilisation grecque jusqu'à nos jours. Déesse de la guerre, elle sera la protectrice des opprimés et restera toujours du côté de la justice. On l'appelle aussi l'ouvrière, car elle enseigne l'art du tissage et de la sculpture. À l'instar d'Hestia et d'Artémis, Athéna est une déesse vierge à qui on ne connaît pas d'aventure. Pour autant, elle fut l'objet des avances de son accoucheur Héphaïstos. Alors que celui-ci la poursuit pour la violer, son sperme se répand sur la cuisse de la déesse qui l'essuie avec de la laine qu'elle jette à terre. La terre ainsi fécondée donne naissance à Erichthonios qu'Athéna recueille. L'enfant a pour particularité d'être mi-homme, mi-serpent, tout comme Cécrops. Athéna remet ensuite l'enfant enfermé dans un coffre aux filles de Cécrops, tout en leur défendant formellement de l'ouvrir. Évidemment, l'ordre n'est pas respecté et les jeunes filles, terrorisées à la vue de l'enfant, se jettent du haut de l'acropole. Ce qui est d'autant plus frappant que leur propre père est aussi un hybride. On lui doit aussi l'invention du char à quatre roues, sur lequel Zeus l'enlève ensuite au ciel pour en faire la constellation du cocher. Athéna et Poséidon se sont disputés la possession de l'Attique. Et c'est une histoire que nous allons maintenant vous raconter. Ils choisissent comme arbitre Cécrops, le premier roi du territoire. Poséidon frappe l'acropole de son trident et en fait jaillir un étalon noir, invincible au combat, capable de transporter des chars, des soldats et des armes. Athéla, de son côté, prend un peu de terre dans sa main, la jette devant elle et y plante sa lance. En surgit le premier olivier pour nourrir le peuple et soigner ses blessures. Cécrops demande aux habitants d'Athènes, les femmes comprises, de choisir eux-mêmes leur protecteur. Il est mal placé pour pouvoir lui-même trancher. Les hommes préfèrent le cheval, susceptible de leur apporter la victoire dans la bataille. Les femmes, quant à elles, préfèrent l'olivier. Plus nombreuses d'une voix, elles font pencher la balance en faveur d'Athéna. Furieux, Poséidon submerge l'Attique sous les flots. Pour apaiser sa colère, les Athéniens doivent imposer aux femmes trois punitions. Elles n'auront plus le droit de vote, aucun enfant ne portera le nom de sa mère, et enfin, elles ne seront plus appelées Athéniennes. Première régression, dans la civilisation qui a vu naître la démocratie. Erichthonios, moitié homme, moitié serpent, prend ensuite possession du trône d'Athènes. Il fait construire l'Erechtheion, le plus ancien sanctuaire de l'Acropole, dont les premières prêtresses sont Aglaure, Pandrose et Hercé, c'est-à-dire respectivement le beau temps, la rosée et la pluie, tous trois dons d'Athéna. Il crée également, en son honneur, les Panathénées, des rassemblements sportifs destinés à fêter l'anniversaire de la déesse. C'est la plus grande fête d'Athènes. Plus tard, Androgée, le brillant, fils de Minos et Pasiphae, sera assassiné, comme vous le savez, après avoir raflé toutes les médailles de cette fête sportive. En tant que divinité civilisatrice, les Athéniens la vénèrent également pour leur avoir appris à utiliser le soc, la charrue et l'attelage des bœufs. La protection de la cité d'Athènes se retrouve frappée sur les monnaies de la ville. Athéna est comme Artémis, vierge, et tient beaucoup à sa virginité. Elle fut donc surnommée Parthénos, jeune vierge, d'où le nom du grand temple d'Athènes sur l'Acropole, le Parthénon. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. La prochaine fois, nous parlerons de la pomme de discorde et du jugement de Paris. Merci de rester fidèle à ces aventures de la mythologie. Permettez-moi, sous la protection d'Athéna et du ciel étoilé du mont Ida, de vous souhaiter une nuit de sérénité.